Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Panorama jusqu'à 20h sur Europe 1 pour justement passer en revue les différents sujets de société et notamment cette question où des sociétés privées viennent en aide à l'État pour maintenir le bien public, celui qui appartient à tout le monde, les entreprises privées au secours du patrimoine français. Bonsoir Marie de Habesan-Snow.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la marque Alliance de la communication et de la RSE. Bonsoir Jacques de Chauvelin.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la communication chez la fondation La Sauvegarde de l'Art Français. Nous allons parler de ce grand projet de l'assureur Allianz sur le plus grand musée de France en détail, ce que ça implique, ce que ça représente. Mais d'abord, bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
De quoi parle-t-on quand on parle, quand il s'agit de patrimoine au sens large?
Eh bien, selon la classification de l'UNESCO, on distingue le patrimoine culturel immatériel, les traditions orales, les arts du spectacle, les rituels, et le patrimoine culturel matériel, le mobilier, l'immobilier ou le subaquatique. Alors si l'émergence de la conscience patrimoniale nationale remonte à la Révolution, avec la création de la première commission des monuments en 1790, les politiques du patrimoine ont longtemps concerné les seuls édifices, objets ou restes archéologiques susceptibles d'être conservés comme des traces uniques, voire des chefs-d'œuvre de notre histoire. Le tournant s'opère avec André Malraux dans les années 60, puis Jack Lang dans les années 80. L'un décrétant que tout objet témoignant de la typicité du pays, d'une région, d'un lieu, voire d'une communauté peut être classé, je cite, « de la petite cuillère à la cathédrale » selon les mots même d'André Malraux. Et l'autre, en transformant le rôle de l'administration dans ce domaine, elle ne décide plus dès lors de ce qui doit être classé, mais accompagne les collectivités territoriales et les citoyens dans la définition de ce qu'ils considèrent même leur patrimoine. Le problème, c'est que depuis, le champ de la protection s'est peu à peu élargi et le nombre des monuments qui en bénéficient ne cesse de croître, à tel point que chaque année, près de 300 bâtiments et 1500 objets sont protégés au titre de monuments historiques et leur entretien comme leur restauration représente un coût considérable, de plus en plus difficile à assumer pour les collectivités qui n'hésitent pas dès lors à se tourner de plus en plus vers le mécénat privé.
Bon, et alors si on fait le compte, aujourd'hui, combien d'objets, combien de monuments sont protégés en France?
Alors, au 1er janvier 2022, près de 260 000 objets mobiliers étaient protégés au titre de monuments historiques, dont plus de 120 000 classés depuis 1891, près de 44 780 immeubles également, dont 14 273 immeubles classés, exactement, et près de 30 500 immeubles inscrits.
Bon, alors avec la fondation de la Sauvegarde de l'Art Français, Jacques de Chauvelin, on voit quand même comment est-ce qu'on arrive à protéger tout ça. Non, il y a des... Il faut se dire que chaque année, il y a des immeubles qui vont s'effondrer, malheureusement. Il y a des retables, il y a des piétas qu'on ne pourra pas sauver. Commençons par les mauvaises nouvelles.
Oui, il y a des mauvaises nouvelles, mais nous, on préfère être du côté de ceux qui s'engagent pour restaurer, pour sauver avant que ça s'effondre, pour empêcher que le clocher du village s'effondre, pour empêcher que la piéta se dégrade et soit mangée par des insectes xylophages. Donc en fait, c'est une question aussi de mobilisation. Hein. On l'a souligné, il y a énormément d'objets qui sont classés, inscrits, et puis il y en a toute une myriade qui n'entrent pas dans ce champ-là, mais qui méritent aussi d'être restauré. Donc c'est un travail à la fois des autorités culturelles, ministères, les DRAC, etc. Mais c'est aussi le travail des citoyens, des associations, des fondations comme la nôtre qui s'engagent pour restaurer ce patrimoine-là avant qu'il ne disparaisse.
Marie de Habesan-Snow, comment est-ce que ce grand assureur tout d'un coup arrive dans la partie, si j'ose dire?
Il y arrive un peu souvent à travers une histoire d'amitié, mais aussi en tant que directrice de la marque. Mon souci, c'est de faire en sorte que les projets de partenariat, ce que l'entreprise finance, parlent à ses collaborateurs, parlent à ses agents généraux à travers la France, qui sont des entrepreneurs totalement indépendants. Et j'ai pensé que la passion des Français pour l'histoire devait aussi être la leur. Et ce qui m'intéressait, c'était l'ADN totalement régional, vraiment territorial de la Sauvegarde pour la Française, qui correspond tout à fait au maillage d'Alliance France et de ses agents généraux à travers toute la France.
Alors, le plus grand musée du monde, donc si je comprends bien, on a pris les 16 régions de France, donc y compris les territoires ultramarins.
Nouveauté de cette année. Oui.
Voilà, et parce que du coup, le projet, il a quelques années déjà.
Il a démarré l'année dernière.
Alors votre initiative,
le projet avec Alliance a démarré l'année dernière, mais la campagne Le plus grand musée de France a débuté en 2013. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé avec des engagements bénévoles avec des étudiants, et puis très vite, des entreprises nous ont rejoints, voyant tout ce que le projet pouvait apporter. Et on a commencé avec Alliance l'année dernière, avec une première édition qui a été une très belle réussite. On a recommencé cette année, en incluant les territoires ultramarins cette fois-ci.
Donc, en tout cas, moi, ça m'amusait de découvrir cette initiative, parce qu'on a ici même à Europe 1 un monsieur qui s'appelle Stéphane Bern, qui a initié le loto du patrimoine, et on voit que, alors que ce loto du patrimoine est quelque chose de vraiment à très très grande échelle, chacun fait à son échelle, et l'Assureur Alliance avec la Fondation de la Sauvegarde de l'Art Français le fait également. Donc, on a choisi 16 régions, et dans chacune des régions, il faut choisir une seule œuvre. C'est difficile.
Bah c'est ça toute la beauté. Il y a différentes phases dans le projet. Et la phase qui n'est pas la moins intéressante est celle du sourcing, de l'identification des œuvres. Et c'est là où le réseau de la sauvegarde est très important.
En fait, pour trouver des œuvres, déjà, c'est une première étape qui a commencé cette année aux Journées du patrimoine en septembre. Et l'idée, c'était d'une part que les agents généraux, les collaborateurs d'Alliance repèrent dans leur village, près de chez eux, des œuvres d'art à restaurer, sachant que le principe de la campagne, ce sont des œuvres d'art qui sont accessibles à tous gratuitement. Donc c'est du patrimoine religieux, du patrimoine de
nos villages. Oui, c'est pas le truc que j'ai dans mon jardin, que j'enferme et puis... Voilà. S'il vous plaît, venez la sauver.
Ouais. Il y a une notion d'intérêt commun et général, effectivement. Et donc, on nous a fait remonter beaucoup d'œuvres, hein, que ce soit donc par le réseau Alliance, par le réseau de la sauvegarde, par des associations, par des conservateurs qui travaillent avec nous toute l'année. Et ensuite, on a eu près de 131 œuvres d'art qui ont été repérées. Et on a dû faire un premier tri.
Et alors, comment on fait ? On envoie des experts quitter, par exemple, une docteure en histoire de l'art qui présente cette exposition Léo Monet. Est-ce que c'est ce genre de personnes qu'on envoie ?
La sauvegarde a tout ça. des experts, évidemment, des historiens de l'art. Notre approche, elle est un tout petit peu différente parce que ce qui nous intéresse, c'est une sorte d'équité régionale, territoriale, si on peut dire. Donc, il y a un jury top secret qui se rassemble, qui est composé des représentants de part et d'autre. Et on croise à la fois la valeur historique des objets et puis pour nous, la pertinence, la répartition sur le territoire pour que chacun ait sa chance.
Alors, ce qui m'a, interpellé, c'est que vous allouez du coup une somme qui est de 8000 euros à chaque heure. Mais pourquoi 8000 ? Pourquoi ce chiffre-là ? Et puis, je pense qu'une œuvre monumentale nécessiterait beaucoup plus qu'une œuvre peut-être petite. Pardonnez-moi ma candeur sur le sujet. Mais,
C'est un vrai sujet qu'on a pour les instruments de musique, pour les orgues, par exemple, qui nécessitent des sommes assez impressionnantes pour être restaurées.
Après, les 8000 euros sont souvent bien suffisants pour restaurer une œuvre. Alors, effectivement, il y a certains sujets avec des ensembles un peu plus... imposants, des orgues, des objets du patrimoine industriel, par exemple, qui peuvent demander beaucoup plus d'argent en restauration. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'association, la mairie qui va bénéficier de ce mécénat, elle peut aussi faire appel aux subventions de l'État et à tout ce qui existe déjà pour aider à la restauration du patrimoine. Donc en fait, ces 8000 euros-là, ils vont venir aussi activer un projet, réduire le reste à charge de la commune ou de l'association qui aurait dû payer cette somme de sa propre poche. Et c'est là tout l'intérêt du mécénat. En fait, on vient donner une dynamique au projet et permettre de l'activer.
C'est là peut-être que les Français ne comprennent pas exactement, parce que d'un autre côté, et je vais vraiment jouer plus que le candide, je vais presque jouer le bêta, mais nous tous, nous sommes des contribuables, donc nous payons des impôts qui vont ensuite, pour une partie, au ministère de la Culture. Ce même ministère de la Culture qui, à travers les DRAC et les FRAC, s'occupe des œuvres à restaurer. Et en même temps, vous avez 70 millions de Français qui voient arriver justement des mécènes et qui disent finalement, ça ne suffit pas. Donc, vu le nombre d'œuvres absolument colossales, et Capucine l'a rappelé tout à l'heure, d'abord, on ne peut pas sauver tout. Ensuite, on se dit, mais comment est-ce que l'État finalement se débrouille et pourquoi est-ce qu'on a besoin de mécénat extérieur ? C'est-à-dire que c'est presque c'est presque sans fin, en réalité.
C'est un travail, à mener sur le long terme. Effectivement, les œuvres sont à restaurer. Celles qui ont été restaurées il y a 50 ans seront à restaurer dans quelques décennies. Donc, on ne peut pas avoir à un moment tout restaurer. Ce n'est pas possible. En plus, comme vous l'avez mentionné, il y a énormément d'objets. Ça inclut encore une fois que ce qui est visible, c'est-à-dire classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Et puis, il y a tout un tas d'objets, là, comme dans notre sélection ici pour le plus grand musée de France, qui ne sont pas protégés. Donc, c'est encore un autre périmètre. Mais nous, ce qu'on voulait dire avec cette campagne, c'est que les Français sont vraiment attachés à ce patrimoine-là. C'est le patrimoine de proximité, c'est celui qu'ils voient tous les jours. Et pour nous, à la sauvegarde de l'art français, on se dit que parfois, ce patrimoine-là fait plus sens que le grand patrimoine qu'on nous présente dans les musées et que ce patrimoine-là de proximité...
Ce grand patrimoine qu'on ne voit jamais dans les musées parce qu'on ne prend pas la peine d'aller les voir, c'est ça ? C'est sympa pour les musées, merci.
C'est pas une pique contre les musées, mais c'est plutôt pour dire d'aller voir le patrimoine là où il est. Quand on habite... On peut faire et, mais souvent c'est quelque chose qui est important. Nous on le voit aussi à travers une campagne qu'on fait avec des lycéens, qui a un principe un petit peu différent, mais où on a fait intervenir des mécènes aussi. On fait découvrir en fait à des lycéens des œuvres d'art autour de leur lycée, un peu dans le même cadre.
Par exemple,
je vous donne un exemple à Dreux. On a fait une campagne il y a quelques temps où on a permis à des lycéens d'aller découvrir avec des conservateurs, des restaurateurs, des œuvres d'art qui étaient dans des églises, dans des mairies autour de leur lycée, de comprendre leur origine, de comprendre leur iconographie, tout un travail d'histoire de l'art.
Notamment la basilique des rois de France, j'imagine.
Magnifique. Et aussi de se l'approprier, de comprendre, vous l'avez dit, on est contribuable, mais beaucoup de gens en France ne savent pas que ce patrimoine appartient à tous et qu'il est notre propriété, parce que beaucoup de gens ignorent tout ce qui est de l'ordre de la séparation de l'Église et de l'État. Et on voit souvent des commentaires en disant, mais c'est à l'Église de s'en occuper, par exemple pour le patrimoine religieux, mais en fait ce patrimoine-là, il appartient à la collectivité. Et il a une valeur historique certaine, une valeur mémorielle qui est très forte. Donc c'est à tout le monde de prendre en main ce patrimoine-là pour le sauvegarder, en plus de tous les efforts qui sont faits bien sûr par la collectivité, l'État, etc.
Marie de Besancenot.
Oui, pour nous, c'est vrai que pourquoi 8000 euros ? Bon, c'était un test l'année dernière, on s'est dit est-ce que ça va prendre ? On donne 8000 euros par région, on verra. On s'est dit qu'en effet 8000 euros dans la plupart des cas, ça suffisait pour rendre sa beauté à un objet. Et on s'est dit aussi, bon, on va faire des déçus, y compris parmi nos propres troupes, parce qu'on a des collaborateurs qui proposent des offres qui ne sont pas lauréates au final. Mais ce qu'on a aimé dans ce projet, c'est toute la campagne qui va avec, et notamment la presse régionale. Et c'est fantastique de voir la PQR qui s'en empare, qui valorise un objet. Et on se dit qu'un objet qui a fait 4 apparitions dans la presse locale en 4 semaines, il a de fortes chances de finir restauré, même s'il n'a pas gagné, et même si ce n'est pas par nous.
Quel retour vous avez justement derrière ? Parce qu'effectivement, il y a d'abord, j'allais dire, la publicité pour la restauration d'une œuvre, et puis derrière, il y a le contentement ou pas de la population sur place. Quel retour vous avez ?
Alors c'est là où le projet m'intéressait pour sa dimension d'engagement, parce que je crois qu'elle est finie la période où les entreprises donnaient des chèques pour des clubs ou des associations sans engager, sans embarquer leurs propres collaborateurs. Donc on a une histoire à raconter, c'est ce qu'on aime avec ce projet, c'est que l'histoire elle s'étend sur toute l'année, parce qu'il y a l'identification des objets, ensuite il y a le lauréat, ensuite il y a la restauration en elle-même, avec la possibilité de voir l'œuvre exposée aux différentes étapes de sa restauration. Et ça, pour nous, c'est important pour nos agents généraux qui sont localement. On a 2500 points de vente dans tous les villages de France où parfois il y a moins de services publics. On a des agents généraux. Donc pour eux, c'est une grande fierté de pouvoir emmener des clients assister à cette restauration petit à petit. Et puis on l'a vu dans les votes. L'année dernière, on a eu 67 000 votes. Cette année, on a eu 80 500 votes. On voit qu'il y a un engouement incroyable qui va bien au-delà de nos collaborateurs et de nos agents généraux. Bien sûr, on l'a ouvert à la population.
En tant que directrice du RSE chez Allianz France, est-ce que vous considérez ce genre d'événement comme rentrant dans la RSE ? Est-ce que c'est une forme également d'ouverture également sur est-ce que la culture fait partie aussi du raisonnement d'une entreprise, du raisonnement et du rayonnement, de l'apprentissage, puisque Jacques de Chauvelin parlait des lycéens, par exemple.
Ce qui est certain, c'est que la dimension de proximité est très importante. Donc c'est vrai que ce projet, je l'ai plutôt initié en tant que directrice de la marque, plutôt qu'en tant que directrice de la RSE, mais les deux se rejoignent autour de la proximité territoriale, qui est pour nous absolument capitale, puisqu'on est une grande marque mondiale, leader de l'assurance, etc. Mais on est surtout, on repose beaucoup sur le travail de ces agents généraux, qui sont des acteurs locaux, qui sont des entrepreneurs locaux. Et donc on a voulu leur donner cette possibilité eux-mêmes de faire campagne, eux-mêmes de se faire connaître autour d'un sujet d'intérêt général, voire eux-mêmes d'identifier une statue qui est quelque part entre chez eux et là où ils travaillent et la faire connaître à l'ensemble.
Vu comme c'est parti, vous allez prendre les RH aussi, puisque vous avez donné une nouvelle fonction. Vous avez donné une nouvelle fonction à vos agents généraux. Vous leur avez donné, c'est vrai, d'une certaine manière, une forme de récréation, puisqu'ils peuvent s'occuper aussi d'autre chose que de signer des contrats d'assurance.
Un rôle d'animation, oui, c'est vrai. Mais c'est bien sûr que c'est un de mes objectifs, en fait, de valoriser ce rôle. Et lorsqu'on assiste au aux remises de chèques, puisque du coup, avec Jacques et nos partenaires de la Fondation, on a un tour de France chaque année, on va remettre ce chèque, où c'est l'occasion de rencontrer nos agents généraux, nos agents d'assurance qui sont là localement, avec les responsables de la mairie. Parfois, on a les députés qui font le déplacement, la paroisse, enfin vraiment toute une population locale, et de voir l'impact.
Vous parlez beaucoup, tous les deux, de religieux, de paroisse, etc. Ça ne concerne que des œuvres qui ont attrait, justement, un attrait religieux ?
Non, pas seulement, mais il faut se dire aussi que dans les ensembles qui constituent ce plus grand musée de France, hein, donc toutes ces œuvres accessibles gratuitement, on a une grande, grande majorité de patrimoine religieux, effectivement, mais on a aussi du patrimoine républicain, mémoriel, industriel, scientifique. Donc ça fait une grande variété de...
Un exemple d'exemple scientifique, alors,
la locomotive.
Technique.
On a eu une belle locomotive cette année. Elle n'a pas gagné, mais c'était un bel exemple de patrimoine
alors,
industriel.
Où est-ce qu'elle était cette locomotive ? Racontez-moi.
En Bretagne.
Elle était à Carré dans le Morbihan. Mmh. Et ça, alors c'est intéressant parce que vous voyez, c'est une locomotive, donc c'est un objet. C'est considéré comme un objet. Hein.
Mais elle est où cette locomotive ? Dites-moi, parce qu'elle est au fond d'une gare, elle était là en train de rouiller.
Non, justement, elle est entre de bonnes mains, puisqu'elle est dans les garages d'une association d'anciens cheminots qui s'occupe de restaurer du patrimoine ferroviaire. Donc ce qu'ils font, c'est voilà, ils achètent, ils récupèrent, et ensuite ils le remettent en valeur, notamment dans le cadre de circuits touristiques pour faire visiter la Bretagne.
Donc elle marche.
Elle marche, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils l'ont restaurée, et ils en ont restauré d'autres, et ils les font marcher. On avait aussi, dans le cas d'une autre campagne, restauré un camion de pompiers Berlier, par exemple, en Bretagne aussi. Pareil, c'est des associations qui sont ultra dynamiques, ultra motivées, qui arrivent à aller chercher des fonds partout. Voilà, c'est donc il y a le patrimoine religieux qui constitue le gros du lot, si je puis dire, mais il y a beaucoup de typologies différentes de patrimoine qui sont aussi tout aussi intéressants.
Est-ce que vous diriez, Marie-Doa Besancenot, que le mécénat maintenant est un passage obligé pour toutes les entreprises ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se doit, et pas que pour des raisons officielles, parce qu'on imagine aussi que certaines entreprises peuvent défiscaliser, encore que je parle sous votre contrôle.
Je ne pense pas que ce soit l'objectif premier de ce projet.
Mais justement, c'est parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que d'une certaine manière, ça fait avancer la marque, puisque vous êtes directrice de la marque, donc ça fait un rayonnement pour la marque. Genre, bon, finalement, s'ils ont participé à restaurer la locomotive du coin, finalement, je vais peut-être passer un contrat chez Allianz plutôt que chez son concurrent. Ça, vous ne me direz pas le contraire, mais d'une certaine manière, et on a vu comme le mécénat, je pense à Jean d'Aussonville, par exemple, qui a fait de Chambord ce qui est Chambord aujourd'hui, à Catherine Pégard, qui a fait de Versailles ce qui est Versailles aujourd'hui, grâce au mécénat. Est-ce que ce mécénat d'entreprise a de beaux jours devant lui, et si oui, de quelle manière ?
Je dirais que c'est marrant dans les deux sens, peut-être plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce sont les œuvres qui ont besoin du mécénat des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui mécènent des grands orchestres. Voilà, c'est pas rare. Je pense à des grandes banques, des grands assureurs, etc. C'est vrai que ce projet, il est un petit peu différent pour nous, parce qu'il est résolument non parisien, non élitiste. Il y a un côté ultra démocratique, en fait. Et je peux vous dire que dans ces fameux jurys intermédiaires, on regarde évidemment l'intérêt historique, mais au final, c'est pas ce qui prime. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que est-ce qu'il y a une communauté qui va se réunir autour de cette locomotive ? L'histoire du camion pompier, c'est vrai que Jacques me l'avait raconté quand on s'est lancé dans le projet. C'était avec une autre entreprise, mais je la trouvais géniale. Il paraît que voilà, c'est un lieu de rencontre aujourd'hui. C'est vraiment un lieu qui fait vivre dans le village. C'est ça ce qui nous intéressait.
Pour la fondation de la sauvegarde de l'art français, comment est-ce que vous fonctionnez ? Quelles sont vos méthodes ? Comment est-ce que vous vous réunissez ? Comment est-ce que vous choisissez vos projets ? Comment est-ce que vous avancez également dans cette tâche qui est difficile, aux côtés, j'imagine, des autorités et du ministère de la Culture ?
Alors nous, la sauvegarde de l'art français, déjà, on est une des plus anciennes structures de défense du patrimoine en France. On a eu 100 ans en 2021. On fonctionne, en fait, on est mécène et on cherche du mécénat en même temps. C'est-à-dire, on est mécène parce qu'on a un fonds qui nous permet chaque année d'allouer des dons pour restaurer du bâti. Hein,
D'où il vient ce fonds ?
C'est un legs qui a été fait par notre seconde présidente, Aliette de Rohan, la marquise de Maillet, et qui aujourd'hui encore nous permet de donner entre 1 et 2 millions d'euros pour des projets de restauration du patrimoine bâti religieux. C'était fléché dans ses conditions testamentaires. Donc ça, c'est notre côté mécène. Et puis, on a un côté recherche de mécénat pour notre campagne Le Plus Grand Musée de France, qui fonctionne sans fonds qui viennent directement de chez nous. On va chercher des entreprises, des particuliers, on fait des souscriptions qui permettent de restaurer tous ces objets-là. On a aussi, bien sûr, quelque chose qui est très important pour nous à la sauvegarde, c'est qu'on est entouré d'une équipe bénévole d'architectes, d'historiens d'art, qui sont des gens de très haute qualité dans leur milieu, qui travaillent sur des très grands projets, mais qui viennent donner un peu de leur temps pour nous conseiller, que ce soit sur la partie mobilier ou immobilier, et pour veiller à ce que, par exemple, nos aides, nos dons, soient fléchés sur des projets qui respectent le patrimoine, qui respectent les savoir-faire, l'usage des matériaux locaux, ou encore qui respectent tout simplement l'historicité du lieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et enfin, on a toute une série de prix, de bourses qui nous permettent de rayonner dans le monde du patrimoine, de soutenir la recherche en histoire de l'art, par exemple, d'avoir des prix pour des restaurations exemplaires, comme je le disais à l'instant, ça nous tient vraiment à cœur. Et donc, c'est cet ensemble de tâches qui nous tient à cœur depuis 100 ans aujourd'hui. Et le développement du mécénat est vraiment essentiel pour nous, puisqu'il nous permet de trouver de nouveaux financements, de créer de nouvelles opérations, comme celle-ci avec Alliance France, qui est vraiment une réussite, et d'avoir toujours plus, in fine, de répondre toujours plus à notre but d'intérêt général.
Je note qu'il y a des prix, je reprends l'histoire du loto du patrimoine, il y a donc un loto, donc il y a également une loterie. Là, en l'occurrence, ce plus grand musée du monde, on choisit, et en même temps, les Français choisissent aussi, puisqu'il faut se décider. Il y a toujours une histoire de compétition, et c'est ça qui marche, c'est ça qui amuse les gens pour avancer.
Moi, c'est ça ce que j'adore dans ce projet, c'est que les dernières 48 heures, tout change. Et donc cette année, on a eu une lutte musclée en région Normandie et Pays de la Loire, où de villes, voire villages, parfois de tailles complètement différentes, combattent à 50 votes près pour gagner. Et oui, c'est ça qui est formidable.
Ils finissent par se détester, là. Vous allez créer des fractures interrégionales.
C'est une belle émulation. Non, mais ce qui est formidable, on a un exemple, par exemple, dans la région Grand Est. On avait un tableau à Mulhouse, qui était un très beau tableau, qui était dans la mairie, dans la salle des mariages, une allégorie de la justice. Et ben, finalement, elle a perdu, parce que Mulhouse n'est pas énormément mobilisée. Et face à elle, le petit village de Vauclair, qui a, je crois, 500 habitants.
489
a gagné haut la main. C'est des histoires comme ça. Donc, en effet, c'est un projet qui valorise ceux qui arrivent à bouger de communauté, à les rassembler. L'année dernière, on a eu une histoire extraordinaire avec une statue de Bernadette de Soubirou à Lourdes. Le sanctuaire s'est démené. Ils ont dû écrire à tous leurs contacts dans le monde entier, plus de 6000 votes. Voilà, c'est des belles histoires comme ça.
Pour faire du lobbying derrière, évidemment. Jacques de Chauvelin, pour compléter.
C'est toujours des belles histoires. En fait, c'est pas forcément le plus gros qui gagne. C'est un peu David contre Goliath parfois. Cette année, on a encore eu un exemple en Corse. On a un village qui s'appelle Prato di Giovellina, qui fait 45 habitants et qui a mobilisé alors sur les réseaux sociaux de manière assez admirable et qui ont gagné contre Bonifacio, qui est quand même une petite ville avec beaucoup plus d'habitants. Et donc ils ont su en fait aller trouver les ressources, faire réseau. C'est tout cet aspect-là du concours qui est intéressant. En fait, on mobilise les gens, on leur rappelle qu'il y a ce patrimoine commun et qu'il a protégé. Et donc, vous avez des gens qui ont voté en France, mais aussi des expatriés à l'international qui ont été mobilisés sur le vote. Donc, c'est une belle campagne pour nous, une belle réussite. Et surtout, in fine, une belle réussite pour le patrimoine, puisque voilà, on va avoir 16 œuvres qui vont être restaurées.
Et alors, ces œuvres qui donc vont être restaurées, ça prend combien de temps ?
C'est très variable. On peut avoir une restauration qui peut se faire en quelques mois, certaines qui peuvent demander beaucoup plus. Ça demande aussi derrière de trouver donc le restaurateur, de faire des études préalables parfois, de voir quels sont les besoins de l'œuvre quand il faut la restaurer. Donc ça, c'est assez variable, mais en quelques mois, voire un an.
Le maximum de la restauration, ça peut durer 10 ans ?
Non, quand même pas, mais ça peut durer 1 ou 2 ans, si ça prend un petit peu de temps, si ça doit passer entre plusieurs restaurateurs.
Et une fois que l'œuvre est restaurée, est-ce que ce village de 49 ou 489 personnes finalement redécouvre cette œuvre en disant « Ah, mais on passait devant, on ne la regardait pas », puis tout d'un coup, finalement, ça devient l'attraction du village ?
Là, je peux le dire avec l'expérience, non seulement avec Alliance France, mais de manière générale sur toutes nos campagnes. À chaque fois qu'on raccroche un tableau qui a été restauré, je peux vous dire que ça mobilise beaucoup. Ça fait venir du monde, ça fait venir les gens du village, la presse, toutes les autorités, parce que les gens sont fiers en fait, de présenter ce patrimoine restauré.
Parce que si ce n'est pas restauré, il y a des alternatives, c'est-à-dire, on va construire une supérette, / un hôtel, / un rond-point, / rien du tout, un parking, une coulée verte, parce que c'est vrai que c'est un peu tendance ces derniers temps.
Bah, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le
on dit, bah, tiens, on va se débarrasser de cette fichue statue finalement qu'on regarde et personne ne regarde, et puis elle est en train de s'écrouler. Bah, finalement, c'est peut-être l'occasion de faire une école ou une crèche. Il y a aussi des projets. J'imagine qu'il y a parfois des tensions, non, dans ces des sociaux, tensions du coup très très sociétales dans ce genre de projet.
Oui, mais en même temps, le mécénat justement, il vient soulager la mairie sur certaines dépenses et donc permettre. Si l'argent n'est pas attribué à une restauration urgente, il sera attribué à d'autres projets de la mairie qui sont tout aussi utiles, comme vous l'avez dit, de manière sociétale. Donc c'est un cercle vertueux. En fait, plus il y a de mécènes, plus les mairies ou en tout cas les propriétaires auront des fonds pour faire d'autres opérations.
Mais c'est vrai que ces campagnes aident quand même à accélérer les heureux dénouements. On imagine que les œuvres sur lesquelles on a jeté la lumière vont quand même être restaurées. Et quelque chose qu'on observe, moi je trouve d'assez amusant dans ce projet, c'est que plus les photos font mal au cœur, plus l'œuvre a l'air défigurée, calcinée, plus elle obtient de votes. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très affectif.
Vous voulez dire qu'il y a un storytelling, c'est-à-dire qu'on met en image. Oui. J'ai dit, regardez, il faut sauver cette pauvre statue qui est en train de décrépir.
Clairement, on sent que le sentiment d'urgence, justement, c'est ce que vous disiez, le fait que l'œuvre va totalement disparaître, que c'est la dernière chance, vraiment, qu'on ne peut pas lui donner plus d'un an dans cet état d'humidité. Voilà. On sent que ça marche. Ouais.
Et ce que vous dites, c'est qu'il y a des réseaux sociaux derrière qui emboîte le poids en disant regardez.
Et c'est là où la restauration est magnifique parce qu'on peut faire des jolis effets de avant après où l'œuvre reprend tout. Non mais c'est vrai, cette année on a un très bon exemple d'œuvre totalement calcinée. On attend qui a gagné, on attend avec impatience de voir l'après parce que elle sera toute noire.
Dans chaque projet, là, dans les 16 projets, vous avez toujours une anecdote, toujours du storytelling, ça, que ce soit, ben voilà, à Bouillé-Laurès dans le 79, vous avez des toiles qui ont été calcinées lors de l'incendie de l'église qui vont être restaurées. Alors l'effet avant-après sera admirable. Vous avez des redécouvertes un peu rocambolesques parfois. Donc il y a toujours un fil à tirer pour aller trouver une anecdote, pour raconter l'histoire de l'œuvre.
Voilà, l'émerveillement absolu après ces œuvres restaurées. Merci beaucoup de cette initiative. Merci à vous, Marie-Dora Besancenot. Merci à vous, Jacques de Chauvelin, et à toute l'équipe de la Fondation de la sauvegarde de l'art français, où il y a d'ailleurs des anciens ministres, il y a Madame Albanel, par exemple, il y a pas mal d'administrateurs. C'est assez intéressant de voir à quel point, pas seulement le ministère de la Culture, mais d'autres œuvres pour conserver ces symboles du patrimoine français. L'information continue, bien sûr, toute la soirée avec Guilhem de Prévoisin, demain avec Lionel Gougelot, puis Dimitri Pavlenko, et dans l'immédiat, après 20h, ça sera le sport. Bonsoir Lionel Rousseau.